de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, jeudi 29 août 2019, et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. L'arbre suivante, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Radio Days Asia 2019 invite des personnels des radios de l'Asie à discuter de l'avenir de la radio. L'Indonésie participe à l'exposition japonaise sur les fruits de mer pour exporter 42,62 millions de dollars. Le premier accord commercial de l'Indonésie avec un pays africain est officiellement signé. Sabang organise le festival de la culture ethnique pour attirer les touristes. L'ambassadeur d'Indonésie à Beyrouth, Hadrianto Tohari, a présenté ses lettres de créance au président libanais. Et enfin, les investisseurs britanniques sont intéressés à augmenter des investissements en Indonésie. Voici le journal complet. Pour répondre aux défis des développements technologiques et des perturbations des médias, du personnel de radio de divers pays, en particulier d'Asie, a participé à la conférence Radio Days Asia 2019 à Bukit Bintang, Kuala Lumpur, en Malaisie, du 27 au 28 août. Radio Days Asia, qui s'est tenu pour la première fois en Asie, a présenté des dizaines d'intervenants de divers aspects de l'industrie de la radio et des centaines de participants. Dans ses remarques, le fondateur de Radio Days Europe et de Radio Days Asia, Anders Hurt, espérait que Radio Days Asia 2019 pourrait présenter une meilleure radio pour les auditeurs.
Radio Days Asia is here today.
Maintenant, nous unissons nos efforts pour créer un nouvel événement et professionnel, un forum de rencontre des radios en Asie et dans le monde entier. Je suis sûr que nous pouvons apprendre les uns des autres, nous inspirer, développer notre contenu et notre activité, est également présenté une meilleure radio pour les auditeurs à la fin de cette année. La conférence Radio Days Asia 2019 possède plus de 30 sujets, dont la plupart discutent de l'avenir de la radio, de l'utilisation des médias sociaux pour la radio, de la présence des podcasts, des fausses informations et de l'état de la radio dans divers pays. Le seul conférencier indonésien dans la conférence Radio Days Asia 2019 était Kemal Mokhtar, le radiodiffuseur de l'une des radios privées de Jakarta, avec deux autres diffuseurs, à savoir Madi Barber de Singapour et Ea Nasrun de Malaisie. Kemal a présenté le processus de production de l'émission du matin au dernier jour de Radio Days Asia 2019, mercredi. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a enregistré une transaction d'exportation potentielle de 42,62 millions de dollars américains lors de l'exposition JP International Seafood and Technology, JST. Dans un communiqué de presse reçu mercredi à Jakarta, le haut fonctionnaire du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, M. Mahmoud, a déclaré que La participation de l'Indonésie au salon d'ISTE visait à accroître les exportations de produits de la pêche au Japon et à ouvrir de nouvelles possibilités d'exportation des produits de la pêche indonésiens sur le marché international. Selon M. Mahmoud, le Japon est le deuxième principal partenaire commercial en tant que pays destinataire des produits de la pêche indonésien après les États-Unis, d'une valeur de 676,58 millions de dollars américains, soit 13,92% de la valeur totale des exportations de produits de la pêche indonésien en 2018. Il expliquait que la participation du ministère des Affaires maritimes et de la pêche à l'exposition de Japan International Seafood and Technology, qui s'est tenue du 21 au 23 août 2019, avait généré une valeur de transaction potentielle de 42,62 millions de dollars. Ce chiffre a augmenté de 14,67% par rapport à la valeur potentielle des transactions du salon de l'année précédente. Le ministre indonésien du Commerce, Enggartiasto Lukita, et le ministre de l'Industrie et du Commerce du Mozambique, Regendra Berta de Sousa, ont signé un accord commercial préférentiel qui est le premier accord commercial entre l'Indonésie et des pays d'Afrique. L'accord a été signé dans la ville de Maputo, au Mozambique, mardi, le 27 septembre, en marge du plus grand salon au Mozambique. Comme indiqué par Antara, le ministre Enggartiasto Lukita dans sa déclaration à Jakarta, mercredi exprimé sa fierté que l'Indonésie est enfin le premier accord commercial avec un pays du continent africain qui serait aussi une nouvelle étape dans l'expansion de l'accès au marché du continent africain. Le gouvernement de la ville de Sabang, Aceh, par l'Office du tourisme et de la culture, organisera un festival culturel ethnique en 2019 dans le but d'accroître le nombre de visites touristiques dans cette région. Le chef de la section des affaires générales et des relations publiques du secrétariat régional de la ville de Sabang, Bahrul Fikri, a déclaré que cette activité aurait lieu à Sabang du 30 août au 1er septembre. Comme cité par Antara, il a expliqué que le Monde Malé est un concept qui montre les relations humaines et culturelles dans certains nombres de nations de l'archipel qui ont des similitudes en termes d'origine, de langue, de religion, de coutumes et d'art. Bahrul Fikri a affirmé que le festival de la culture ethnique sera participé par des représentants de Sumatera du Nord, de Sumatera Ouest, l'Ouest de Kalimantan, de Riau et d'autres provinces. L'ambassadeur d'Indonésie à Beyrouth, Hajrian Totohari, a transmis des lettres de créance au président libanais, Michael Aoun, au palais présidentiel de Betedin mardi, heure locale. La présentation de ces lettres de créance a marqué le début de la peine d'activité d'ambassadeur Hajrian Totohari en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie auprès de la République du Liban. Accueillant l'ambassadeur Hajrianto, le président Michael Aoun a exprimé ses chaleureuses salutations à l'ambassadeur et a pleinement soutenu les bonnes relations entre l'Indonésie et le Liban, notamment la coopération accrue dans les domaines de l'économie et du commerce entre les deux pays. À cette occasion, l'ambassadeur Hajrianto a exprimé sa profonde gratitude au président du Liban pour son acceptation et sa réception. L'ambassadeur d'Indonésie s'est également présenté et a présenté les salutations chaleureuses du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo. En outre, l'ambassadeur a également souligné qu'il travaillerait dur pour améliorer les relations de coopération entre les deux pays. Un certain nombre de sociétés d'investissement britanniques se sont intéressées à augmenter leurs investissements dans le secteur des services financiers, en particulier pour les financements respectueux de l'environnement, ainsi que pour ceux qui soutiennent la réalisation de programmes de développement durable. Le président du Conseil des commissaires de l'Autorité des services financiers, OJK, Wimbo Santoso, a déclaré mercredi dans un communiqué écrit reçu à Jakarta que l'intérêt de l'investisseur britannique avait été vu lors de l'événement financier Le dialogue des services financiers du Royaume-Uni 2019 qui s'est tenu à la fin d'août 2019. Wimbo a déclaré qu'avec un intérêt élevé de l'investissement des acteurs économiques mondiaux, le gouvernement et les régulateurs de l'industrie financière indonésienne anticiperait les défis économiques mondiaux afin que la résilience économique nationale soit maintenue et capable de maintenir le climat d'investissement. Dans le dialogue des services financiers du Royaume-Uni 2019, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Indonésie, Owen Jenskins, a expliqué que le Royaume-Uni s'était positionné comme partenaire pour l'Indonésie de collaborer dans les domaines du financement vert, du financement islamique et des sociétés financières basées sur la technologie, ou FinTech. Serita, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici le commentaire intitulé « Construire une économie numérique pour atteindre les objectifs de croissance économique 2019 ». Le gouvernement indonésien a fixé les hypothèses de croissance macroéconomique dans le projet du budget de l'État RAPBN pour 2020 à 5,3%. Ce chiffre est supérieur à l'objectif de croissance économique fixé par APBN pour 2019, qui était de 5,2%. L'Indonésie peut-elle atteindre un tel objectif de croissance? Si vous regardez la croissance économique de l'Indonésie au cours des 5 dernières années, qui était de 100%, des efforts plus durs sont nécessaires pour atteindre l'objectif de croissance de 5,3%. La réalisation de l'objectif de croissance économique pour 2019 est de plus en plus difficile à atteindre au milieu d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. L'une des raisons de ne pas être réalisée la croissance économique au cours des 5 dernières années était que la consommation n'a augmenté qu'environ de 5%. Si vous souhaitez atteindre un objectif de croissance de 5,2% en 2019, il est nécessaire de définir une stratégie pour que la consommation augmente fortement. L'un des efforts pour augmenter la consommation est à construire une économie numérique en encourageant la consommation intérieure. La contribution de l'économie numérique en 2018 représentera environ 8,5% du produit intérieur brut, PIB, de l'Indonésie. Ce chiffre est en hausse de 1,2% par rapport à 2017, dont la contribution ne représente que 7,3% du PIB. La perspective d'une croissance économique numérique indonésienne à l'avenir est considérée comme très prometteuse et pourrait contribuer de manière significative à la croissance économique indonésienne. Par conséquent, il est important que le gouvernement accorde une grande attention au développement économique numérique. Pour construire une économie numérique en encourageant la consommation intérieure, le gouvernement doit accélérer l'achèvement du développement de l'infrastructure d'Internet. À l'heure actuelle, la connectivité au réseau d'Internet en Indonésie dépasse 90%. Cependant, le gouvernement a encore d'autres devoirs sur l'utilisation efficace de la connexion Internet. Pour cette raison, l'alphabétisation numérique est nécessaire. Bien que 50% de la population totale de l'Indonésie ait utilisé l'accès à Internet, son indice à l'alphabétisation numérique reste relativement faible. Selon les données de Skibble Developer publiées en 2019, les utilisateurs d'Internet indonésiens sont dominés par les hommes jusqu'à 52,5%. Alors que les femmes ne représentent que 47,5%. Les données indiquent également que 65% ou 86,3 millions d'internautes sont dans l'île de Java. Cela signifie qu'il existe un fossé numérique entre Java et hors de Java. Bon, chers auditeurs, c'était le commentaire.
Vous écoutez toujours la voix de l'Irnésie, diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. L'anniversaire de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie. Au lendemain de la proclamation de l'indépendance le 18 août 1945, précisément, le comité préparatoire de l'indépendance de l'Indonésie a établi la constitution 1945 de la République d'Indonésie. À partir de ce moment-là, l'administration de l'État était basée sur les dispositions conformes à la Constitution 1945. Conformément aux règles de transition, le 29 août 1945, on a formé un comité national indonésien central composé de 137 membres. Il a admis que ce comité central national en tant que candidat à la législature en Indonésie. Le 29 août 1945, il est défini comme l'anniversaire de la Chambre des représentants indonésienne. L'Union soviétique testait des bombes nucléaires le 29 août 1949. Le 29 août 1949, l'Union soviétique menait son premier test de bombes nucléaires secrètes. Ainsi, depuis ce moment, la bombe nucléaire n'est plus uniquement contrôlée par les États-Unis. L'équilibre qui se produit dans la compétition pour les armes nucléaires s'appelle une terrible égalité. À partir de ce moment-là, les États-Unis et l'Union soviétique sont entrés dans une guerre de propagande. Cette guerre s'appelle la guerre froide. Cette guerre entre les blocs occidental et oriental a duré jusqu'à la dissolution de l'Union soviétique en 1991. L'ouragan de Katrina le 29 août 2005. L'ouragan de Katrina est devenu l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Cet ouragan le 29 août 2005 a détruit une partie des États-Unis, de la Louisiane au Floride. Les États de la Louisiane et du Mississippi sont les plus touchés. 80% de la ville de la Nouvelle-Orléans a été inondée après l'effondrement de digues de protection contre l'inondation. Des milliers de bâtiments ont été gravement endommagés et 1 800 personnes sont mortes. 1 million d'habitants doivent évacuer. À cette époque, on a imposé un statut d'urgence. C'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Kita mungkin berbeda dalam kata dan rasa, namun ingat kita tetap
bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama. Hati kita untuk Indonesia.
Jiwaku, jiwamu bersatu. Sama wujudkan cita-cita Indonesia juara. Kita untuk Indonesia.
Jiwaku, jiwamu bersatu. Untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita Indonesia juara.
Bila kita percaya, jangan pernah kau menyerah. Untuk Indonesia juara, yeah.
Jiwaku, jiwamu bersatu. Untuk Indonesia lebih indah. Bersama
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée L'Indonésie est le meilleur, chantée par Abdul. Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant la rubrique Mode Indonésie. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Mode Indonésie intitulé Le ministère de l'Environnement et des Forêts étudiera l'environnement terrestre de la nouvelle capitale. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a immédiatement commencé à mener une étude environnementale stratégique pour la future région de la nouvelle capitale située entre Penajam Pasir Utara et la région de Kutai Kartanegara dans la province de Kalimantan Est. Cela a été déclaré mardi par la ministre de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya, au palais présidentiel de Bogor. Le déplacement de la capitale vise également à améliorer le parc forestier de Bukit Suharto et les zones de conservation. Selon la ministre Siti Nurbaya, il existe l'écosystème unique dans l'est de Kalimantan, à savoir la baie de Balikpapan qui est encore des forêts de mangrove. Avec la bonne gestion, les animaux et leurs habitats seront préservés. Pour cette raison, elle discutera avec des organisations environnementales et à plusieurs personnalités de l'environnement pour commencer à rédiger les termes de référence. Il faut 2 mois pour terminer les études environnementales. Concernant la partie des terres à utiliser et une forêt de production, Madame Siti Nurbaya a déclaré que cela n'était pas contraire à la réglementation. Selon la loi numéro 41 l'année 1999, le changement de la désignation et la fonction des zones forestières sont déterminés par le gouvernement sur la base des résultats de la recherche intégrée. En outre, l'article 38 de la loi numéro 41 l'année 1999 sur la foresterie stipule que l'utilisation des zones forestières à des fins de développement en dehors d'activités forestières ne peut pas être effectué que dans des zones forestières de production et des zones forestières protégées. Dans la réglementation du ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts, numéro P51 l'année 2016 concernant les procédures de libération des zones forestières de production convertibles, il est également expliqué le permis d'utilisation des zones forestières accordé par le ministre pour utiliser une partie de la zone forestière à des fins de développement en dehors des activités forestières. Les intérêts de développement en dehors des activités forestières mentionnés, entre autres, le placement des victimes de catastrophes naturelles, installations funéraires, installations éducatives, les bureaux du gouvernement ou le gouvernement local et d'autres infrastructures. Chers amis, c'était la rubrique Modernisie.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
C'était la deuxième chanson intitulée « Appel à la bonté » chantée par Citra Solastika. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Écoutez maintenant Magazine Culturel.
Bonsoir, chers auditeurs. Ce soir, je vais présenter Karawo, le tissu typique de Gorontalo. Festival du charme de Karawo 2019 est l'un des 100 calendriers des vêtements du ministère du Tourisme qui se tiendra le 6 octobre 2019 à Gorontalo. Il y a une série d'événements du mercredi 2 octobre 2019 à son apogée dimanche 6 octobre. Il y aura le défilé de personnes portant des vêtements en Karawo, le défilé de broderie, le concours de photos de Karawo et le concours de motifs de Karawo. Ce festival a pour objectif de populariser le tissu Karawo au public. Karawo est le tissu de broderie typique de Gorontalo. Le nom de tissu traditionnel Gorontalo provient du mot Karawo qui signifie broderie à la main. Il existe depuis le XVIIe siècle pendant le royaume de Gorontalo. À l'origine, le tissu Karawo était fabriqué par des personnes de Gorontalo, en particulier des mères et des jeunes femmes pour leurs propres besoins. Mais à cause de sa beauté et de son caractère unique, beaucoup de gens aiment le tissu Karawo et maintenant, ce tissu est commercialisé sous la forme des tissus et vêtements. Le prix est très varié. Le prix des tissus et des vêtements pour femmes, 1225 000 roupias ou 250 000 roupias. Les vêtements pour hommes, qui se composent de costumes en laine d'une valeur de 400 000 roupias, des costumes ordinaires à 150 000 roupias, et des chemises de 100 000 roupias à 150 000 roupias. En plus d'être fabriqué pour différents types de vêtements, le tissu Karawo peut également être utilisé pour divers articles bordés sur le tissu. Les articles fabriqués avec le tissu de Karawo, tels que des sacs, des mouchoirs, des cravates, des calottes, des nappes, du linge de lit, des sous-verts, des chapeaux en rotin et des éventails. Le tissu Karawo a une broderie distinctive avec diverses décorations de couleurs attrayantes. Le processus de broderie n'est pas facile. L'AOD M. Arif Akbar, le responsable de la fonction de développement des micro, petites et moyennes entreprises, a expliqué à Voice of Indonesia au bureau de représentation de la banque indonésienne dans la province de Gorontalo qu'il existait deux processus de fabrication des tissus Karawo.
Ada lima proses. Jadi yang pertama kita mendesain, membuat desain Karawonya. Yang kedua kita
il y a deux processus. Tout d'abord, nous concevons et donc de créer un design de Karawo. Deuxième moment, nous avons coupé le tissu. Nous tirons les fils un par un jusqu'à ce qu'un motif soit formé. Après ça, entrer le nouveau fil conformément au dessin, puis attacher et devenir broderie. Les motifs de broderie varient également. Par exemple, les tulipes, les roses et les papillons. Un tissu brodé peut être fabriqué pendant environ une semaine à un mois. Ça dépend du type de tissu, du fil et du motif. La meilleure qualité de tissu Karawo, utilisant du fil d'or et des motifs complexes, nécessite plus de temps. Bon, chers amis, c'était le magazine culturel sur le tissu Karawo de Gorontalo.
Yeah.
Musik kita itu juara buat dari Indonesia, difusi dari Jakarta, MRC Data Fidel, Ano Terang Ten. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant l'Indonésie en couleur. Chers amis dans le monde entier, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur et cette fois je vous présente des informations sur Grape Andong. Andong est des chariots de chevaux. Ce type de transport est facile à trouver à la province de Yogyakarta. De nombreux touristes à Yogyakarta l'utilisent pour se déplacer dans la ville. Ce qui est intéressant aujourd'hui, que nous n'avons plus besoin de négocier le tarif parce qu'on fournit déjà une application en ligne pour les réservations Andong à Yogyakarta. Il s'appelle Grab Andong. Ce service en mode traditionnel basé sur des applications a été officiellement lancé par le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, en collaboration avec le gouverneur de la région spéciale de la province de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, vendredi 23 août 2019. Le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, a apprécié l'initiative de Grab qui s'inscrit pour la continuité du partenariat visant à soutenir Wonderful Indonesia pour améliorer la qualité des modes de transport locaux emblématiques qui peuvent offrir de nouvelles expériences aux touristes. Il espère que plus de touristes soutiendront Grab Andong. Sri Sultan Hamengkubuwono X, le gouverneur de la province spéciale de Yogyakarta, a déclaré que Yogyakarta n'offrait pas seulement la beauté de ses destinations touristiques, mais aussi le caractère unique des modes de transport existants. L'existence de Grab Andong rend les touristes plus à l'aise lors de la visite de Yogyakarta. Actuellement, il y a 500 chariots de chevaux à Malioboro, Yogyakarta. Dans la première phase de Grab Andong, 26 chariots de chevaux ont été enregistrés pour le projet initial. Le nombre de partenaires augmentera d'environ 200 à Grab Andong au cours des 6 prochains mois. Quant à une partie des revenus obtenus par Grab Andong, on la soumettra à l'association de Andong de la région spéciale de Yogyakarta avant de soutenir le programme de soins des chevaux de la faculté de médecine vétérinaire de l'université Gajah Mada. Le tarif de Grab Andong coûte 150 000 rupiah, dont le trajet est autour de Malioboro, Alun-Alun et Malioboro. Les coûts des heures supplémentaires ont également été calculés. Si la location est plus d'une heure, c'est-à-dire qu'il y a un supplément de 1250 rupiah par minute. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Berat telah sakiti hatimu. Meski bukan maksudku untuk lukai perasaan, kasih maafkanlah,
kasih maafkanlah,
dan jangan kau membisu karena kesalahanku. Egoanku, berikan ku kesempatan perbaiki semua karena ku hanya
kesalahanku, keegoanku. Berikan ku kesempatan untuk perbaiki semua karena ku hanya ingin membuatmu bahagia.
Kasih maafkanlah,
maafkanlah,
dan jangan kau membisu karena kesalahanku. Egoanku, berikan ku kesempatan,
kesempatan
untuk perbaiki semua karena ku hanya ingin membuatmu bahagia.
Musik kita tujuh lah buat Delir Nizi di Fuzia Dabi Jakarta. Fuzia tujuh remek nu. Sur frekans de 3,5 kHz et sur le site web www.voanews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec une chanson indonésienne.
Bonsoir, serviteurs de la voix d'Indonésie, voici le magazine musical. Aujourd'hui, nous allons écouter une chanson d'Andy Merke Matalata intitulée Perle du Sud. Née sous le nom d'Andy Siti Meriem Nurul Kusuma Wardani Matalata, elle est plus connue avec le nom Andy Marie Matalata. Elle est également connue sous le surnom de Perle du Sud, donné d'abord par Iskandar, un compositeur ou musicien de la chanson pour elle intitulée Perle du Sud. Iskandar a joué de nombreux rôles dans la carrière d'Andy Marie. En plus d'être compositeur et producteur d'albums, Iskandar enseigne également le chant à Andy Marie. On peut dire qu'Andy Meriem a commencé à participer au monde de la musique indonésienne en tant que chanteuse professionnelle depuis la publication de la chanson intitulée Mutiara dari Selatan ou Perle du Sud. Bon, serviteur, voici donc sa chanson intitulée Perle du Sud. Bonne écoute et à demain!
Thank you. Voice of Indonesia.
Chers auditrices, auditeurs dans le monde entier, c'est l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.